Couvre-feu, confinement local, bars, restaurants et salles de spectacle fermées. Cette vie, comme entre parenthèses, plonge des millions de Français dans la déprime.
Ce que je crains, c'est un cataclysme psychologique. On voit déjà un afflux de patients dans nos centres. Hein. On a tellement de patients qui demandent à consulter que les secrétaires ne peuvent même plus répondre au téléphone maintenant. Et ça, on le constate dans toute la France. Et ça, ce ne sont que ceux qui demandent des soins. Il y a tous ceux qui restent en souffrance chez eux, isolés.
Isolement, anxiété, dépression, addiction aux écrans ou à l'alcool, les étudiants figurent parmi les populations les plus fragiles.
J'ai été accueillie aux urgences psy à la suite d'une grosse crise d'angoisse. J'avais jamais eu d'épisode d'angoisse comme ça.
Les pouvoirs publics ont lancé un chèque psy pour permettre aux étudiants de consulter gratuitement à 3 reprises. En écoutant les angoisses, les psys peuvent-ils réparer les maux de la société ? Cette question traverse En thérapie, la série à succès diffusée sur Arte. Après les attentats du Bataclan, des patients défilent sur le divan.
Il avait mis les infos, c'est comme ça que je suis pour le Bataclan.
Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur.
Face au traumatisme de l'époque, psychologues, psychanalystes et psychiatres peuvent-ils remettre à flot une société anxieuse ? Le système de soins français est-il adapté pour faire face ? Aller chez le psy reste-t-il encore un tabou aujourd'hui ?
Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison. Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort.
Je dois pas être très sensible à l'humour de psy, en fait.
S'il existe une définition précise de la santé mentale, autrement dit, qui peut dire si on va bien ou mal ? Hélène Loyer, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit la santé, alors la santé tout court, comme, je cite, « un état complet de bien-être physique, mental et social ». Est-ce que cette définition vous convient ou est-ce qu'elle est incomplète ?
Écoutez, c'est surtout que le psy fait toujours, le psychanalyste fait toujours entendre une voix un peu discordante sur cette question, parce qu'au fond, on peut être, à vrai dire, en très bonne santé, correspondre tout à fait aux normes de l'OMS, de la santé mentale, et puis après tout aussi en très bonne santé physique, et puis pas se sentir complètement vivant et avoir besoin d'aller voir un psy parce qu'on se sent à moitié mort, à moitié en panne, en soi. Ce qui nous intéresse, effectivement, en tant que psychanalyste, c'est plutôt ça, cette question de se sentir vivant. Et ça peut effectivement coïncider avec une bonne forme physique et une bonne santé mentale, une bonne adaptativité, parce que finalement, vous savez, en cabinet, on reçoit quand même des gens très adaptés qui travaillent, qui vivent, etc., mais qui néanmoins se sentent un petit peu en panne dans leur vie. C'est ça qui fait que ce n'est pas véritablement défini aussi normativement.
Alors, tant de Français en souffrance, Claude, c'est le chiffre du jour.
Oui, qui montre que nous n'allons globalement pas très bien. 12 millions de Français seraient touchés par des troubles psychiques. Après, il faudrait détailler, mais seulement la moitié de ces Français touchés par des troubles psychiques vont consulter des psys. Haute-Caria, pourquoi seulement la moitié des Français qui ne vont pas bien dans leur tête vont se faire soigner ?
Qui ne vont pas bien dans leur tête, ça recouvre une grande variété de situations, en fait, hein, comme on l'a un petit peu évoqué, c'est-à-dire le mal-être, du mal-être, de la détresse, jusqu'à des troubles psychiatriques, on va dire. C'est ce qu'on appelle le continuum de la santé mentale. Donc, pourquoi les gens ne vont pas consulter ? Ben, y a pas mal de raisons, en fait. Pourquoi les gens qui ont des problèmes psy ne vont pas voir un psy, hein, au final ? Eh ben, parce que, par exemple, on n'identifie pas les problèmes. Par exemple, on n'identifie pas les signes de mal-être comme étant des symptômes. On n'a pas les mots pour décrire les mots. Donc on a du mal déjà dans cette première étape-là. Une deuxième chose, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un psy pour aller mieux. On a aussi des ressources propres, chacun, chacune. On sait très bien quand on ne va pas bien, savoir faire du yoga, aller se promener ou appeler un proche, appeler sa famille pour aller mieux. Voilà.
Est-ce que la honte empêche d'aller voir un professionnel ?
Alors, il peut y avoir la honte aussi de se sentir faible, par exemple, de dire « je ne suis pas à la hauteur », etc.
« Ce n'est pas pour moi ».«
Ce n'est pas pour moi ». Et puis, après, il y a la question aussi, si on reconnaît qu'on a des problèmes, si on reconnaît qu'on a besoin d'aide, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va ? À quelle porte on tape ? Et c'est très flou, c'est très fouillis. Psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, psychiatre, etc. Et il y a ce que vous évoquez, la stigmatisation.
Damien Leguet, est-ce que la pandémie a eu un effet déclencheur et un accélérateur ou intensifiant ce mal-être et cette souffrance à cause de la mort qui est au cœur de la chose, de l'affaire ? La mort, la peur de mourir, la mort des proches, la culpabilité éventuellement lorsque l'on ne peut pas accompagner son proche. Est-ce que tout ça a été déterminant ?
Si vous voulez, les indicateurs sont tous au rouge. C'est-à-dire quand on regarde toutes les enquêtes qui ont été faites, l'enquête Jean Jaurès, etc. et d'autres, montrent que les pensées suicidaires augmentent, que la dépression augmente.
Depuis un an.
Au moment du confinement. Mm-hmm. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit bien qu'effectivement, depuis un an, l'attention que nous avons à l'égard des morts, la vigilance que nous avons à l'égard de ceux qui sont en train de mourir et qui sont envoyés, s'est dégradée. Qu'on a tout fait pour calfeutrer les morts, pour mettre à distance les endeuillés, et tout cela est catastrophique. Tout cela produira, je renvoie en particulier effectivement à un entretien que vous avez eu vous-même avec Delphine Horviller.
À son livre surtout.
À son livre surtout, mais...
Le rabbin Delphine Horviller qui vient de sortir un livre sur les discours chrétiens en famille endeuillée.
Exactement. Et en particulier, elle dit une chose qui est absolument essentielle. Elle dit tout cela va générer des présences fantomatiques absolument gigantesques. Les fantômes, c'est bien ceux qui n'ont pas leur solde, ceux qui n'ont pas leur compte, ceux qui sont en attente de quelque chose pour les mettre dans la paix la plus possible. Donc là, on est dans une situation qui est malheureusement une situation qui est catastrophique, vraiment. Et on a tout fait pour privilégier la santé hygiéniste du corps seul.
Comme dire la vie biologique la vie par rapport biologique, à l'existence
exactement,
globale, holistique.
Comme si on en était revenu à un dualisme âme-corps inversé. Mm-hmm. On a considéré pendant longtemps qu'on méprisait le corps au profit de l'âme. Et bien maintenant, c'est l'inverse.
Nadia Ivocon, la solitude.
Oui, c'est un autre indicateur inquiétant. D'après un sondage IFOP qui a été réalisé avec l'association Astrée qui a été publié en janvier dernier, 18% des Français disent souffrir de solitude depuis le début de la crise sanitaire. C'était 13% avant. 71% de ces personnes disent aussi être malheureux, c'est le mot qu'elles ont employé. Et 63% ont des pensées suicidaires. La crise sanitaire est mondiale, on le sait. Donc le phénomène touche évidemment beaucoup d'autres pays. Le Japon en premier lieu, c'est pas tout à fait nouveau parce que c'est un pays où l'isolement existe fortement. Un Japonais sur sept vit seul, dont beaucoup, beaucoup de personnes âgées. Un senior isolé sur sept ne parle à quelqu'un qu'une fois tous les 15 jours, c'est très peu. Les jeunes sont également touchés au Japon à travers ce qu'on appelle les ikikikomori, pardon, je le dis très mal, mais ce sont des reclus volontaires qui sont généralement atteints ou qui pensent être atteints de phobie sociale, qui vont rester chez eux en passant beaucoup, beaucoup de temps devant les écrans. Et donc cette situation, elle a été jugée suffisamment inquiétante pour que le gouvernement nomme, c'était il y a 15 jours, un ministère de la solitude qui va être chargé notamment d'endiguer la vague de suicides, une vague de suicides qui est sans précédent depuis 2011. Ce n'est pas la première fois, il y a eu également la création d'un ministère de la solitude au Royaume-Uni, c'était en 2018. Hélène Leuillet, est-ce qu'on fait suffisamment, sans parler peut-être de créer un ministère, mais est-ce qu'on fait suffisamment en France pour les personnes qui se sentent seules, sans forcément l'être d'ailleurs, et pour prévenir les pensées suicidaires dont on vient de parler ?
Écoutez, est-ce qu'on en fait... Non, il y a eu bien entendu une dégradation de la psychiatrie, une dégradation du soin, ça c'est évident, et ça fait partie aussi un petit peu de cela, puisque après tout, les pensées suicidaires, après à un certain point, ça justifie une hospitalisation en psy, mais je veux dire, l'hôpital psychiatrique a été complètement abandonné, de très bonnes intentions.
Comment est-ce qu'on les détecte si la personne ne se présente pas elle-même comme ayant des pensées suicidaires? Est-ce qu'on arrive à les repérer?
Ça c'est un peu, effectivement, c'est une grande question, parce que malgré tout, on peut pas faire l'économie. C'est ça aussi la difficulté de la psychanalyse, mais c'est aussi l'éthique, l'économie de la demande de la personne qui décide à un moment donné d'avoir le courage de le dire, de s'en ouvrir. Donc c'est un cercle effectivement vertueux ou vicieux, parce qu'il faut déjà garder un petit peu d'ouverture, parler au moins à un voisin, parler au moins au gardien de l'immeuble, pour que là puisse s'enclencher effectivement toute une série de contacts. Il faut beaucoup compter aussi sur l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on oublie un petit peu tous les SOS. Vous savez, les SOS amitié, les SOS suicide, ce sont des psychologues.
Les lignes d'écoute, vous voulez dire
votre structure aussi.
Tout à fait, oui. Par exemple, tout à fait. D'ailleurs, pendant toute l'épidémie, là, on a vu une augmentation de la création des lignes d'écoute. Effectivement, sur notre site, on recense toutes les lignes d'écoute et on voit aussi des lignes d'écoute très spécialisées qui se mettent en place, par exemple, pour les chefs d'entreprise. Avec des évidemment c'est une
on
réponse
parle beaucoup du malaise des chefs d'entreprise, non, des PME qui n'y arrivent pas, qui se sentent abandonnés
il commence à y avoir des dispositifs un petit peu fléchés pour les étudiants. Je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard. Il y a aussi des initiatives qui apparaissent et qui sont tout à fait intéressantes.
Il y a une attention supplémentaire qui a été portée sur l'hôpital, notamment après le premier confinement, parce qu'on se compte de ce qu'on avait manqué. Est-ce qu'il y a la même attention vis-à-vis de structures comme la vôtre de la part des autorités maintenant?
Eh bien, écoutez, oui, puisque nous, notre structure Psychom, donc c'est un organisme national d'information sur la santé mentale, on a une reconnaissance importante maintenant des pouvoirs publics, en particulier du côté du ministère de la Santé, de l'Agence Santé Publique France. On travaille très en lien, en fait, sur ces questions-là pour proposer une information la plus accessible, honnête et indépendante possible, en fait, sur toutes ces questions de santé mentale, de troubles psychiques, où trouver des ressources, où trouver la porte pour, quand on a besoin.
Évoquons les jeunes, s'il vous plaît.
Et l'investissement de l'État.
Les jeunes qui souffrent.
Parce que Nadia en parlait à propos du Japon, mais c'est vrai aussi en France, les jeunes souffrent particulièrement d'être privés de leur vie. Réponse du chef de l'État, c'était en janvier dernier, il a proposé à la jeunesse un chèque. Écoutez ces mots et on poursuit.
L'objectif qu'on s'est donné pour faire ce fameux chèque psy, c'est de pouvoir travailler avec les centres hospitalo-universitaires et les centres hospitaliers et les psychiatres qui sont dans ces centres, avec justement l'ensemble des universités, et de mettre en place un dispositif où tout étudiant, par lui-même ou sollicité par un proche, et donc je pense qu'il faut qu'on ait cette vigilance collective, puisse avoir accès à un parcours de soins et éventuellement une consultation, en tout cas qu'il soit accompagné pour que la parole soit recueillie et qu'il soit prise en charge.
Alors, ça a été mis en place le 1er février. La prise en charge sont 3 chèques pour 3 séances de 45 minutes à 30 € remboursées à 100%. J'ai une question, Hélène Leuillet. Est-ce que 3 séances de psy, quel que soit le psy, ça suffit pour se remettre sur pied ou c'est juste un début?
Je crois que même, vous savez, je ne suis pas comportementaliste, mais je crois que même les comportementalistes qui font des thérapies courtes, non, 3 séances, c'est vraiment, ou alors il faut quelque chose d'extrêmement précis. 3 séances, c'est évidemment pas suffisant. Mais enfin,
c'est pas la pose d'une couronne chez le dentiste.
Non, exactement. Bon, en même temps, toute ouverture à un psy qui peut être déjà une amorce. Vous savez, après tout, quand on a 18 ans, 20 ans, étudiant, on n'est pas forcément prêt à faire une grande analyse pendant
10 ans,
20 ans à 3 séances par semaine. Ouais. Donc, je dirais, avec les jeunes, il faut y aller doucement aussi. Et après tout, personnellement, je me dis, pourquoi pas, enfin, si ça peut, pour certains, donner l'idée que c'est possible justement rompre le cercle dont on a parlé, de la stigmatisation, de la honte que vous évoquiez. Si ça peut donner l'idée que c'est possible et que après, quand on aura un peu plus d'argent, quand on sera un peu
parce
plus...
Parce que quand on aura un peu plus d'argent, parce que quand on va chez un psy, il faut, en tout cas chez un psychanalyste, il faut qu'il vous en coûte. Donc il faut payer.
Oui, bien sûr.
L'orthodoxie veut qu'on
oui,
paye.
Tout à fait, mais de toute façon, on paye toujours.
On paye enfin, toujours d'une manière ou d'une autre.
Vous êtes payé avec un dessin. Enfin,
on paye toujours.
Et on peut, voilà, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui se perd et qui est payé. Bien sûr, je pense qu'il faut quand même que ce soit toujours à la hauteur des moyens de chacun et que ça ne ruine pas les personnes et qu'il puisse y avoir des structures de gratuité pour ceux qui ne peuvent pas.
Voilà. Damien Leguet, c'est le rôle de l'État de prendre en charge cette santé mentale, cette souffrance?
Manifestement, l'État laisse en déshérence les services de santé mentale. L'investissement est lamentable quand on le compare.
Pensez à la psychiatrie.
Par rapport aux autres pays européens. Mm-hmm. Et on se rend bien compte que tous ces services-là sont complètement débordés. Juste pour revenir sur la question du suicide, on considère qu'en France, il y a 9000 suicides par an. Il y a 100000 tentatives de suicide par an. On considère qu'il y a 20% des Français qui ont des pensées suicidaires. Donc là aussi, on considère ou pas que la question du suicide est une question de santé publique ou non. En Angleterre, on a vu effectivement qu'ils ont développé une politique de prévention extrêmement puissante pour...
À base de quoi?
Pour justement toutes ces personnes qui ont fait les tentatives de suicide, pour les prendre en charge, pour les assister, pour faire en sorte, ce qui n'est pas le cas en France...
En France, on les laisse tomber, c'est ce que vous dites, on laisse tomber les personnes suicidaires, on les laisse seules.
Le président parlait d'une vigilance collective mais qui venait de la société. En Angleterre, ce sont des organismes officiels.
Ce sont plutôt des organismes communautaires. Donc, vous avez plutôt un sentiment, dans la mentalité anglo-saxonne, de la communauté qui prend en charge ceci ou cela. Et là, en l'occurrence, effectivement, ça se voit pour les soins palliatifs, ça se voit pour beaucoup de choses. Et là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui accompagne les parcours individuels des individus qui en sont passés par les tentatives de suicide. Donc, je dis simplement que ces éléments-là, qui sont des éléments qui méritent, me semble-t-il, d'être complètement considérés comme faisant partie de la politique de santé, de prévention, parce que là aussi, quelque chose peut être fait. Et dernier point, juste, c'est que quand on